likama pimpae tokangi maboko tozali kotala e bana basili na kokende bana basili na koteka bae na banguna.
Rufin Mboumekima, bonjour.
Bonjour.
Votre film à la recherche du vinyle d'ébène commence chez un disquaire au Havre. Comment vous l'avez rencontré, ce disquaire?
C'est une rencontre assez improbable parce que je venais de m'installer au Havre. J'avais fait avant un film en Roumanie sur un groupe de Congolais qui était allé travailler comme chauffeur de taxi en Roumanie. Et je faisais une projection justement au Havre. Et ce disquaire qui connaissait un tout petit peu la musique congolaise avait entendu parler d'une projection d'un réalisateur congolais au Havre. Donc il est venu voir le film. Et à la fin du film, on a échangé un peu. Il m'a parlé des voyages qu'il faisait en Afrique et notamment justement de sa recherche des vinyles. Donc il est parti au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Ghana et un peu partout.
Et avec vous au Congo?
Et avec moi au Congo.
Rufin Mboumekima, c'est quoi votre rapport avec cette musique, cette rumba congolaise?
Mon rapport à la musique, en fait, j'ai longtemps, quand j'étais petit, j'ai entendu mes parents se disputer en musique. Mes parents, quand ils n'étaient pas d'accord, ma mère, quand elle voulait faire comprendre quelque chose à mon père qui était militaire et très autoritaire, elle passait un disque qui quelquefois rappelait aux hommes qu'ils doivent s'occuper de leurs femmes. Et mon père, quand il avait aussi quelques crises de colère et qu'il ne voulait pas qu'on comprenne ce qui se passait, le conflit qu'il y avait dans la maison, il passait un disque qui parfois rappelait à la femme qu'elle doit obéir à son homme et tout. Et moi, ça m'a intéressé. Je me suis intéressé beaucoup à la musique à texte, aux paroles qui se racontaient. Donc en fait, moi, je dirais que la musique en fait m'a un peu façonné.
Votre film, il commence dans les années 50-60, il se termine avec des rappeurs hein, qui font de la musique aujourd'hui à Brazzaville. Pourquoi c'était important pour vous que ce voyage qui commence dans l'après-guerre se termine au présent ?
Parce que j'avais envie de revenir au Congo contemporain. J'avais vraiment envie d'interroger ce qui se disait avant et ce qui se dit aujourd'hui. Et est-ce que cette parole est demeureuse constante? Et si elle est demeurée constante, comment elle a résisté? La même chose s'est passée en littérature, la même chose s'est passée au cinéma aussi. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au lendemain des indépendances, ou même un peu avant les indépendances, la musique a été une musique d'engagement, c'était une musique de revendication. Les gens avaient envie de dire qu'on existe, qu'on est des hommes, et qu'on devrait respecter la condition du Congolais ou de l'homme noir, tout simplement. Et tout de suite, après les indépendances, il y a eu cette espèce de désillusion, puisque les locaux en même ont commencé à faire quelquefois pire que le colon. Donc il y a eu aussi une contestation à ce moment-là. Et moi, cette parole, je me revendique de cette parole-là et j'essaie de la traverser aussi à travers mon cinéma en n'essayant pas d'aller de façon frontale. Parce que dire des choses frontalement, c'est aussi risquer la possibilité de ne pas repartir dans le pays ou de se retrouver en prison, enfin pas mal de choses. C'est de dire, de façon intelligente, dire des choses, les nommer, mais les nommer avec bon sens.
Justement, à la fin de votre film, il y a un rappeur qui dit une chose à la fois très, très belle et très poignante. Il dit, nous, on fait de la musique, personne ne l'achète, mais c'est le noyau de notre espoir et c'est grâce à ça qu'on peut supporter notre pays. C'est une phrase très importante du film.
Absolument, c'est une phrase très importante. Je voulais vraiment que le film se termine par ça, parce que les armes qu'on a, quand certains iront mener des rébellions armées quelque part, d'autres c'est leur plume qu'ils utiliseront, et d'autres c'est la musique. Et Diola, c'est quelqu'un qui est dans cette conscience depuis plusieurs années. Ça fait longtemps que je le connais, ça fait une dizaine d'années que je le connais. Je connaissais les albums qu'il avait sortis en auto-production, et dans ce qu'il chantait, je le trouvais complètement fou de vivre à Brazzaville et de devoir dire ces choses-là. Mais ce que Jolas me disait même avant qu'on fasse ce projet ensemble, c'est que s'il ne dit pas ça, s'il ne fait pas cette musique-là, il se sent mourir. Il n'existe pas. Et justement, dans le film, quand il dit que si on nous reprend ça, on a qu'à tous prendre du cyanure et puis d'exploser comme dans Réservoir Dog, parce que c'est ça qui fait encore aujourd'hui tenir certains artistes, c'est la possibilité d'écrire, c'est la possibilité de dire, de nommer les choses. Et cette liberté, elle est malheureusement très fragile encore.
Rufin Mboumekima, merci beaucoup.
Merci à vous.